RCF. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Place de l'Europe. Je suis Rémi Jabet, volontaire en service civique au pôle média des jeunes européens de Strasbourg. 2020 est désormais derrière nous en espérant que le monde pétille de nouveau en cette nouvelle année. J'espère tout de même que vous ayez passé de bonnes fêtes. Ce soir, nous vous proposons une émission consacrée à l'Europe et à la crise climatique. Laissez-moi vous présenter ceux qui vont nous accompagner tout au long de cette émission. Nous retrouvons Gwen Taburet. Bonsoir Gwen.
Bonsoir Rémi, bonsoir à tous.
Alors vous êtes une habituée maintenant de cette émission. Comment ça va Gwen? Est-ce que les fêtes de fin d'année se sont-elles bien passées?
Bien, très bien, je te remercie.
Je rappelle que vous êtes étudiante en relations internationales et co-responsable du pôle média des jeunes européens de Strasbourg avec vous Théo Boucard. Bonsoir Théo.
Bonsoir Rémi, bonsoir à tous.
Comment envisagez-vous cette nouvelle année, Théo?
Déjà, bonne année à toutes et à tous. Espérons que 2021 soit une année pleine de réussite, aussi bien pour vous que pour l'Europe.
Et oui, on l'espère tous. Alors, vous êtes également co-rédacteur en chef du Tourillon. Avec nous également ce soir, Maria Semenova. Bonsoir, Maria.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors, vous nous parlerez tout à l'heure des mesures institutionnelles à prendre pour lutter contre le changement climatique en Europe. Nous aurons également le plaisir d'écouter Claude Turmes, ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du Luxembourg.
Place de l'Europe, avec le mouvement des jeunes européens, RCF Alsace.
L'Europe est-elle bien préparée pour affronter la crise climatique? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre ce soir. Théo Boucard, l'Union européenne est souvent présentée comme pionnière dans la gouvernance climatique internationale. Depuis quand est-ce le cas?
Alors, l'Union européenne s'est positionnée en tant que leader de la lutte contre le changement climatique dès le début des années 90 avec les négociations autour de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, connue également sous l'acronyme CNUC, le premier traité international pour lutter contre le changement climatique, mais également le plus important encore à l'heure actuelle. Alors cette action s'est affermie avec les négociations puis la signature du traité de Kyoto en 1997, un instrument juridiquement contraignant pour tenter de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Entré en vigueur en 2005, il imposait aux pays industrialisés une réduction nette des gaz à effet de serre et une stabilisation pour les pays en développement comme la Chine. C'est dans ce cadre-là que l'Union européenne a voté en 2003 une proposition pour créer le système communautaire d'échange de quotas d'émissions, également connu sous l'acronyme SCEQE, le marché du carbone le plus important du monde. D'un point de vue politique, l'Union européenne a également usé de son influence diplomatique pour sauver ce protocole, alors que les États-Unis du président George W. Bush annonçaient leur intention de ne pas le ratifier et donc de ne pas l'appliquer. Plus récemment, l'Union européenne a joué un rôle de premier plan dans la bonne tenue des négociations ayant débouché à l'accord de Paris sur le climat en décembre 2015. Grâce à sa nouvelle personnalité juridique, acquise lors du traité de Lisbonne en 2009, l'Union peut être représentée durant des négociations et signer des traités internationaux.
Et pourquoi, Théo, est-ce important pour l'UE de se positionner comme un leader mondial dans ce domaine?
C'est important car pour le moment, le changement climatique est l'un des rares domaines où l'ensemble des partenaires européens peuvent se mettre d'accord. La gravité du dérèglement climatique et de ses conséquences sur les sociétés humaines sont plus ou moins reconnues à Paris, comme à Berlin, Budapest ou encore Helsinki. La diplomatie climatique européenne peut donc se targuer de certains succès au niveau international, ce qui n'est pas le cas de la diplomatie énergétique européenne, par exemple. Le mix énergétique des États souverains restant une chose jalousement gardée, même en ce qui concerne le développement des énergies propres. Une diplomatie climatique dont l'importance a été réitérée par le Pacte vert pour l'Europe en 2019, avec un chapitre entier de la stratégie présenté par Ursula von der Leyen.
Mais cette action européenne a-t-elle toujours été couronnée de succès?
Ce serait bien évidemment trop beau. Nous pouvons pour cela prendre deux exemples assez éloquents. Premièrement, dans les années 90 en particulier, l'Union européenne n'a pas pu imposer sa vision d'une taxe carbone au niveau mondial face au choix d'un marché du carbone moins contraignant défendu par les États-Unis. Deuxièmement, à la fin des années 2000, l'Union européenne s'est révélée littéralement inexistante lors de la COP15 qui a débouché sur la déclaration de Copenhague en 2009. Et ce, alors que le monde aurait eu bien besoin d'une Europe forte avec une ambition forte pour un accord post-Kyoto.
Merci beaucoup Théo Boucard. Alors nous allons faire une courte pause musicale avec Trio. À tout de suite.
On veut du green, 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 greenwashing. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer,
on veut
On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables, on voudrait quatre bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables.
On veut des balais mais du thon,
on veut du green.
On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées.
On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été.
Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques.
On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique.
On veut du green, 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 greenwashing.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 greenwashing.
Place de l'Europe, avec le mouvement des jeunes européens, RCF Alsace.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Nous poursuivons notre émission consacrée à l'Europe et à la crise climatique. 5 ans après la signature de l'accord de Paris sur la protection du climat, l'Europe et le monde ne semblent toujours pas prêts à adopter des politiques permettant de rester sous la barre fatidique des 1,5 degrés en plus par rapport aux moyennes de température pré-industrielles. Pourtant, l'Union européenne est considérée comme un précurseur dans la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. Théo Bouca, vous avez eu le grand plaisir d'accueillir l'un des architectes de cette politique européenne climat-énergie, Claude Turmes.
Bonjour Claude Turmes.
Bonjour.
Vous êtes actuel ministre de l'énergie et de l'aménagement du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, mais pendant 19 ans, de 1999 à 2018, vous avez été député européen pour le parti Die Greng, les Verts luxembourgeois. Durant vos différentes mandatures, vous avez été le rapporteur de nombreuses initiatives législatives, comme le texte sur le paquet climat-énergie de 2008, instituant des règles contraignantes dans le développement des énergies propres, de l'efficacité énergétique et de la baisse des gaz à effet de serre. Vous avez écrit un ouvrage intitulé « Transition énergétique, une chance pour l'Europe », où vous présentez notamment l'histoire de la politique climat-énergie dans l'Union européenne depuis le début des années 2000. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez écrit ce livre ?
En fait, pour expliquer que l'Union européenne, donc l'Europe, est un acteur puissant sur le changement climatique, parce qu'avec une loi européenne, en fait, on impose ou on fait avancer beaucoup de choses pour les 450 millions d'habitants sur le continent européen. Et un très bon exemple, c'est la loi sur les énergies renouvelables dont j'avais l'honneur d'être le rapporteur au Parlement européen en 2008. À l'époque, il y avait très peu de solaire, très peu d'éolien en Europe. Et avec une seule loi, on a vraiment boosté, on a accéléré les investissements dans l'énergie solaire, dans l'éolien sur terre, dans l'éolien en mer qui à l'époque n'existait même pas encore. Et pas seulement on a créé beaucoup d'investissements, mais on a surtout réussi par l'innovation technologique de baisser les coûts pour le solaire. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison de ne pas électrifier un village en Afrique qui n'a pas d'électricité parce que l'Europe, par cette directive, a réussi à diminuer les prix du solaire au niveau mondial. Et donc, c'est ce genre de choses que j'explique. Et bien sûr, j'explique les lois, mais j'explique aussi tous les combats contre le lobby du pétrole, du charbon, du gaz, qu'on a du lobby automobile. Donc, tous ces lobbies qui nous empêchent souvent d'avancer assez rapidement.
Malgré les nombreux textes promouvant la transition énergétique en Europe, comme les paquets climat-énergie 2020 et 2030, l'Union de l'énergie ou encore le Pacte vert pour l'Europe, les émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas significativement dans l'Union européenne. Comment peut-on expliquer cette situation ?
Non, mais le lobby du pétrole, il ne veut pas qu'on aille sur les voitures électriques parce qu'il n'y aura plus de pétrole qu'on va vendre sur les stations d'essence. Le lobby du gaz, il veut pas qu'on isole bien les maisons et qu'on met une pompe à chaleur alimentée par de l'électricité verte parce qu'on va plus vendre du gaz. Le charbon, bon, il n'est pas content que maintenant on l'interdit partout en Europe. Donc c'est clair qu'il y a des intérêts économiques puissants qui souvent influencent presque trop sur certains hommes et femmes politiques, et ça explique qu'on n'avance pas. La bonne nouvelle, c'est que avec le mouvement des jeunes, les Fridays for Future, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, en fait, ça fait tellement peur aux politiques qui n'étaient pas affiliées vertes que même ceux-là sont en train de moins écouter les lobbies que je viens de nommer et finalement se rendre compte, nous avons une planète, si cette planète est en surchauffe, en fait la base de bien vivre sur cette planète pour des milliards d'habitants, elle va être détruite. Et donc cette conscience planétaire d'une urgence climatique, je crois que c'est seulement depuis que les jeunes étaient dans les rues et ont dit à leurs parents, à leurs grands-parents, aux responsables politiques, aux responsables dans l'économie, écoutez, ça suffit, vous êtes en train de détruire notre futur. C'est ça qui a eu un très grand impact. Et je remercie infiniment tous les jeunes qui étaient dans les rues pour nous aider à bouger le futur.
Vous avez été député européen de 1998 à 2018, période durant laquelle vous avez été le rapporteur de nombreuses directives relatives aux énergies renouvelables. Durant cette période, avez-vous remarqué un changement des mentalités dans les sphères institutionnelles européennes concernant la transition énergétique ?
Oh, il y a eu un peu de changement, mais c'était on devait se battre sur chaque dossier contre les lobbies, contre beaucoup d'hommes et de femmes politiques, souvent de droite, donc parfois on a gagné parce que on avait d'autres intérêts économiques, dont ceux qui vendaient le solaire, les matières d'isolation, qui nous aidaient un peu. Mais donc en fait c'était un peu à désespérer la lenteur avec laquelle on pouvait avancer. Et je le dis encore une fois, depuis que les jeunes étaient dans la rue, depuis qu'on a les Fridays for Future, un président Macron, une chancelière, Madame Merkel, même s'ils ne sont pas affiliés au vert, en fait, ils ont compris, on ne va plus voter pour eux s'ils ne prennent pas le climat au sérieux, et c'est très bien conçu.
Vous venez d'écouter Claude Turmest, ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du Luxembourg. Alors on vient de l'entendre, cette vague écologique est aujourd'hui incarnée par la jeunesse. Gwen Taburet, vous êtes allée à la rencontre de cette jeunesse désabusée et qui porte pourtant beaucoup d'espoir en elle.
Oui Rémi. Alors selon certains de nos aînés, la jeunesse n'est qu'une masse informe d'êtres humains post-pubères, leur cerveau connecté en permanence avec Big Google, exacerbant au maximum leur égocentrisme et ne ratant jamais une occasion de magnifier aux yeux du monde leur vie pourtant si banale et si terne. Alors oui, je joue aujourd'hui sur les clichés car je souhaite faire part, très chers auditeurs, de ma profonde admiration pour cette jeunesse qui se bouge, qui est connectée au monde qui l'entoure, à ses problématiques et qui utilise les armes que les GAFAM ont créées pour faire bouger les lignes, et notamment pour éteindre le feu de notre maison, qui brûle depuis bien trop d'années.
Vous pensez notamment à Greta Thunberg.
Greta est effectivement la tête de cortège de cette vague écologiste, mais en Europe, d'autres Greta Thunberg travaillent aussi chaque jour pour avertir la population, éveiller les consciences et obtenir des changements institutionnels et gouvernementaux. Luisa Neubauer, 23 ans, est la figure de proue allemande du mouvement Fridays for Future, lancé le 25 janvier 2019 à Berlin et qui a déjà rassemblé des milliers de jeunes en Europe. En Pologne, Inga Zasowska n'est âgée que de 14 ans et elle s'est fait connaître en ayant manifesté tous les vendredis du mois de juillet 2019 à Varsovie, la capitale du pays. Mais on pourrait aussi parler de la Suisse Marie-Claire Graff, 24 ans, de la Française Iris Duquesne, 17 ans, ou encore de la Belge Yuna Maret, 19 ans.
Mais ces préoccupations de la jeunesse sont-elles réellement partagées par l'ensemble de la population ou est-ce une mise en avant biaisée de la part des médias ?
Alors à ce sujet, en 2019, le journal La Croix publiait une enquête indiquant que 47% des Européens considéraient le changement climatique comme leur préoccupation sociétale majeure. Alors pour comprendre la réalité de cette préoccupation, nous sommes allés à la rencontre des Strasbourgeois et Strasbourgeoises. Et ce qui transparaît tout d'abord, c'est un réveil des consciences, un véritable désir d'inverser le cours des choses. Malheureusement, cela se heurte à leur sentiment d'impuissance face à l'ampleur titanesque de la tâche et évidemment à la grande inaction des politiques en la matière.
On se sent concerné vu que dans tous les cas, c'est un problème qui touche l'humanité, j'ai envie de dire. Mais après, la question c'est à part faire des choses personnellement, genre travailler sur notre consommation ou ce genre de choses, on peut pas y faire grand-chose quoi. Genre si tout le monde s'y met pas, entre guillemets, on peut pas y faire grand-chose.
Le truc qu'il y a, c'est que c'est assez éloigné du quotidien, au final, même si c'est censé nous toucher. Et c'est compliqué de faire quelque chose à grande échelle si tout le monde n'y met pas un peu du sien.
Mais alors, que pouvons-nous réellement faire pour agir à notre échelle? Adoptons-nous les bonnes pratiques ou pouvons-nous aller plus loin dans nos actions individuelles en faveur du climat? Donc ces questions, nous les avons posées aux passants. Alors parler de consommation et de réduction des déchets en plein Black Friday, jour divin de la surconsommation exacerbée, vantée et surmédiatisée, cela pouvait sembler paradoxal. Et pourtant, cela fit tout de même sens.
Déjà, je pense, arrête d'utiliser la voiture pour des trajets ridicules, par exemple. Il y a aussi tout ce qui est consommation d'eau, il faut faire grave un effort dessus. Réduire d'au moins 5 minutes notre temps sous la douche, par exemple.
Bah, comme on le voit pendant la crise, en termes de consommation, on a consommé beaucoup plus des choses essentielles comparé à d'habitude où on va acheter juste pour se faire plaisir ou des choses dont on n'a pas forcément besoin. On va être un peu dans la surconsommation, peut-être venir à une consommation un peu plus raisonnable en fait, des ressources qu'on a.
Donc dans la catégorie politique publique européenne en faveur de l'environnement, l'Union européenne récolte la triste note de « peut mieux faire ». Conservation des partenaires économiques, désir de protéger nos modes de vie fort confortables, volonté de maintenir de bonnes relations diplomatiques ou tout simplement manque de volonté chronique sont autant de raisons mises en avant pour décrypter le manque d'action radicale en faveur de la protection de la planète par l'Union européenne. Malgré l'espoir porté par le Green Deal d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, la jeunesse a très bien compris que le changement, c'est pas maintenant.
On peut largement faire mieux. Après, c'est difficile à mettre en place quand même parce que c'est tellement des décisions importantes et à grande échelle qu'ils ont du mal à prendre le pli et vraiment à suivre les directives. Mais je pense qu'ils peuvent faire mieux et qu'il faut faire mieux.
Je pense que dans tous les cas, on peut faire mieux. Enfin, que quand on voit certaines décisions qui sont prises plus dans un but monétaire, tout simplement, au lieu de penser directement à l'environnement et de se dire, bon, ça va coûter cher, au niveau relations internationales, ça va être un peu plus chiant, mais ce sera mieux pour l'environnement, il n'y a pas forcément les bonnes décisions qui sont prises, quoi.
Donc je finirai cette chronique par les mots de notre chère Greta Thunberg qui doivent selon moi résonner en nous comme un mantra pour les 100 prochaines années à venir. Je cite « Faisons de cette crise notre principale priorité, unissons-nous et répandons la conscience. Lorsque nous devenons conscients, nous pouvons alors agir et le changement viendra. Voilà la solution, nous sommes la solution. »
Et en effet, l'union fait souvent la force. Merci Gwen. Alors je vous propose maintenant d'écouter la suite de l'interview menée par Théo Boucard de Claude Turmes, ministre de l'Environnement du Luxembourg.
Depuis 2018, vous êtes ministre de l'Énergie et de l'Aménagement du Territoire du Grand-Duché de Luxembourg et à ce titre, vous représentez votre pays lors du Conseil de l'Union Européenne. Quel est le rôle de ce Conseil dans l'élaboration de la politique climat-énergie européenne?
Donc en fait, les lois européennes sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, le contenu CO2 des voitures, des camions, l'organisation du marché européen de l'énergie, tout ça, en fait, il y a les décisions européennes, donc de l'Union européenne, prises entre les gouvernements d'un côté, le Parlement européen de l'autre côté, sur proposition de la Commission européenne, ces décisions-là, ils impactent énormément les décisions nationales. Donc, ce que je fais maintenant à Luxembourg, c'est souvent transposer des directives européennes. Par exemple, nous sommes en train de refaire notre loi sur les normes pour les nouvelles bâtisses à la fois d'habitation mais aussi de bureaux, parce qu'à Luxembourg, avec la place financière, c'est important, les bureaux. Et donc, et là, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est quand je les transpose en loi nationale, d'être vraiment très ambitieux. Et par exemple, sur les normes, sur les nouvelles habitations, le Luxembourg a la norme la plus stricte en Europe. Donc nos bâtiments sont zéro énergie, pas zéro énergie, ils sont zéro carbone, donc très très bien isolés, on profite du solaire et le reste de l'énergie est aussi alimenté par de l'électricité renouvelable. Donc, etc. Sur les voitures électriques, on essaie d'aller vite. Et puis, en tant que ministre de l'aménagement du territoire, en fait, j'ai le plaisir de pouvoir concevoir avec les autorités locales des nouveaux quartiers de vie sans voiture où l'homme, l'enfant, est au centre des préoccupations. Donc, on va recréer de l'espace pour que les enfants puissent jouer dans la rue et que les voitures soient en dehors du parking, du quartier, dans un parking centralisé et qui ne pollue pas ni en roulant, ni en prenant trop de place dans l'espace public.
Une dernière question sur le rôle des citoyens dans la transition énergétique, particulièrement mis en exergue dans votre livre. En quoi les textes européens, comme l'Union de l'énergie ou le Pacte vert pour l'Europe, permettent-ils une affirmation citoyenne?
Donc en fait, sur ce que je me suis toujours battu, c'est que ouvrir un espace de possibilité pour les citoyens d'être eux-mêmes acteurs de la transition énergétique. Et donc, par exemple, dans la dernière directive sur les énergies renouvelables, donc celle qui remplace celle dont j'avais parlé avant, parce que maintenant on a une directive à l'horizon 2030, on donne en fait un droit aux citoyens européens de posséder un panneau photovoltaïque sur son toit, et on oblige tous les gouvernements de l'Europe d'ouvrir un espace pour les coopératives citoyennes, donc pour les investissements collectifs dans l'énergie solaire. Et à Luxembourg, on a créé un prix garanti pour tous les électrons, donc toute l'électricité produite par un panneau solaire dans lequel plusieurs citoyens ont investi, reçoit un meilleur prix que si ce même panneau photovoltaïque serait alimenté par une entreprise privée, aussi pour privilégier justement que les citoyens s'accaparent en fait de cette transition énergétique. Donc le citoyen, je crois qu'il a trois moyens. Il peut investir lui-même, il peut être dans la rue avec ses enfants pour bouger le curseur politique, il va voter, et puis s'il a un peu de liquidité sur son compte d'épargne, je crois qu'aujourd'hui il est important de ne pas laisser son argent à des banques qui investissent encore dans l'énergie fossile, mais de mettre au clair que mon épargne va aussi dans les énergies vertes.
Merci beaucoup Monsieur Turmes d'avoir répondu à nos questions.
Mais ça m'était un grand plaisir.
Place de l'Europe, RCF Alsace.
Et nous remercions Claude Turmes d'avoir répondu présent à notre demande d'interview. L'intégralité de cette interview est à retrouver sur notre site jeune-européen-strasbourg.eu. Maria, le 10 et 11 décembre dernier s'est tenu le Conseil européen en parallèle avec la fête d'anniversaire des 5 ans de la COP21 pour le climat, porteur de beaucoup d'espoir. Quel bilan pouvons-nous en tirer de ce Conseil ?
Un bilan plutôt aigre-doux. En effet, l'Europe fut longtemps le leader de la lutte contre le réchauffement climatique. Au niveau, la nouvelle fierté européenne, la loi climat présentée à cet anniversaire, qui rehausse à 55% l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais désormais, elle fait pâle figure à côté des 68% fixés par le Royaume-Uni et les 65% fixés par la Chine. On dit souvent que l'Union fait la force, mais pour l'Union européenne, la réunion des 27 se relève davantage d'être une faiblesse. Bruxelles a dû faire de nombreuses concessions pour faire lever les nombreux vétos sur cette loi. D'abord, l'objectif sera collectif et non national. Ainsi, de nombreux pays risquent donc de faire le voyageur clandestin. De plus, suite aux pressions du président français Emmanuel Macron, la Commission européenne autorise le choix des énergies adaptées pour atteindre ses objectifs, le nucléaire inclus. Elle renonce aussi à toute taxe sur les transactions financières. Alors que cette taxe dite de Tobin est réclamée corps et cli par l'eurodéputé Laure Rotiérou, qui la présente comme le seul moyen socialement juste pour financer la transition, elle pourrait dégager 57 milliards d'euros par an en taxant seulement de 0,01% les transactions des plus riches, les seuls gagnants de la pandémie. Mais ni la grève de la faim de Laure Rotiérou, ni l'engagement dans le mouvement de 99 autres citoyens, ni même le soutien de millions d'Européens ne sont pas venus au bout de la protection du secteur bancaire. En outre, de nombreux incohérences de l'Union européenne s'érigent en obstacle dans sa lutte pour le climat. Ainsi, le rapport de préconisation pour le Parlement européen pointe l'incompatibilité de la stratégie de la politique agricole commune avec les ambitions climatiques de Bruxelles. Il préconise par conséquent de reconnaître la biodiversité et le climat comme des biens publics globaux, leur a alloué 40% du budget et conditionné l'aide selon le principe du pollueur-payeur. Le rapport Deepest Food pour une autre PAC souligne également la nécessité de rendre plus diversifié et plus vert le régime alimentaire des Européens pour parvenir à un système alimentaire plus durable. Mais l'eurodéputé Laure Rotiérou reste optimiste. Une bataille a été perdue, mais pas la guerre. Néanmoins, il faudra attendre juin 2021 pour espérer de faire bouger les lignes de nouveau.
Merci beaucoup Maria pour ces précisions. C'est la fin de notre émission. Merci également à vous Gwen Taburet et Théo Boucard pour votre participation. J'espère à très vite. Cette émission vous était présentée par l'association transpartisane des jeunes européens de Strasbourg. Nous sommes partisans pour une Europe plus sociale, plus démocratique et à terme plus fédérale. Votre prochain numéro de Place de l'Europe se tiendra lundi prochain. Quant à nous, on se retrouve le 8 février. Merci beaucoup pour votre écoute et très bonne soirée à vous.